Même audio. Vous ne l'avez pas vu? Vous pouvez l'entendre.
Je vous remercie de m'avoir invité parce que je pense que il y a urgence dans la période qui est la nôtre de multiplier les espaces dans lesquels on tente de comprendre la réalité. On ne peut pas changer le monde dans les moments où il est en situation critique si on ne comprend pas les enjeux. Et je pense que nous sommes dans une période particulière. Pour ceux qui suivent un peu mes travaux et mes écrits sur l'actualité, je pense que nous sommes dans une séquence de fascisation qui peut déboucher sur une séquence fasciste si nous ne sommes pas capables de relier des questions qui sont aujourd'hui séparées dans l'essentiel des organisations politiques qui se revendiquent du progrès social, de la gauche, y compris parmi les organisations radicales. Autrement dit, nous avons des organisations qui se battent contre le capitalisme, d'autres contre le colonialisme, d'autres contre le racisme. Mais la question du lien entre toutes ces questions est rarement abordée. Or, nous sommes face à un même système social, et c'est ce qui m'a amené, malgré le fait d'avoir travaillé pendant les 3 dernières décennies, les 4 dernières décennies, sur de multiples questions, de vouloir tenter une synthèse de mon regard sur l'actualité, de mon regard sur le monde, et de mon, en gros, de faire une synthèse théorique de l'évolution de ma pensée. Alors, je voudrais la restituer en 3 grands temps. Le premier, qui est la question des liens entre racisme, immigration et capitalisme. La seconde, c'est de nous arrêter ensemble sur la question des fonctions de l'immigration. Et la troisième, c'est de questionner la question des idéologies qui découlent des 2 questions précédentes comme manière de faire accepter les scandales de ce monde d'aujourd'hui. Alors, sur le lien entre racisme, immigration et capitalisme, je pense qu'il faut arrêter de séparer ces questions et de les aborder comme, en réalité, une même production historique. C'est dans le même temps qu'apparaissent capitalisme, immigration et racisme. De manière un peu caricaturale, parce que bien entendu, ce n'est pas aussi simple que cela, je daterai l'apparition de ces 3 questions de 1492. 1492, Christophe Colomb, soi-disant, a découvert l'Amérique. En réalité, cet événement est à la fois l'acte de naissance du capitalisme, l'acte de naissance du colonialisme et l'acte de naissance du racisme. Pourquoi cela? Alors, pour comprendre cela, il faut avoir en tête qu'avant 1492, il y avait eu déjà une bourgeoisie commerciale. Il y avait déjà eu un enrichissement par le négoce d'une bourgeoisie. Mais elle n'était pas passée à la phase industrielle. La révolution industrielle n'était pas apparue malgré l'ampleur des richesses de la bourgeoisie commerciale. Et il faut ramener ça à d'autres contrées. Ailleurs, il y a eu des bourgeoisies commerciales qui se sont développées et qui n'avaient pas débouché, et qui n'ont toujours pas débouché, sur le capitalisme à partir d'une révolution industrielle. C'était apparu en Chine, de nombreux siècles avant l'Europe. C'était apparu au Maghreb. Ibn Khaldoun, qui est un auteur, géographe, fondateur de la sociologie au Maghreb, Ibn Khaldoun décrit cette bourgeoisie commerciale, et pourtant, ça ne devient pas du capitalisme. Que s'est-il passé en Europe pour que la bourgeoisie commerciale se transforme en bourgeoisie industrielle et donne naissance au capitalisme? Qu'y a-t-il eu de particulier? Le roman officiel nous dit qu'il y a une intelligence particulière en Europe qui a donné naissance aux Lumières et qui a amené la révolution scientifique et technique, produisant la révolution industrielle et la naissance du capitalisme. Y compris les critiques du capitalisme, pour une bonne part d'entre eux, reprenaient ce roman-là. En réalité, ça n'est bien entendu pas cela. C'est le pillage et la destruction des civilisations amérindiennes qui va apporter les capitaux permettant le passage de la bourgeoisie commerciale à la bourgeoisie industrielle. Le capitalisme, dès sa naissance, est en lien avec le colonialisme. Il n'y a pas eu capitalisme puis ensuite colonialisme. C'est dans le même mouvement historique que les choses se produisent, se construisent. Il faut donc, j'en appelle moi, une véritable révolution copernicienne à gauche de notre regard sur ces questions-là, qui jusqu'à présent était le capitalisme s'est ensuite étendu en colonialisme. Eh bien, ça ne s'est pas joué comme ça. Sans le pillage des civilisations amérindiennes, puis ensuite sans l'esclavage, il n'y aurait pas eu l'apport en capitaux permettant ce seuil qualitatif de passage de la bourgeoisie commerciale à la bourgeoisie industrielle. À partir de 1492, l'histoire du monde cesse d'être une histoire multiple. Elle devient une histoire unique. À partir de 1492, le monde se structure en des centres dominants et en des périphéries dominées. En même temps qu'apparaît le capitalisme, se structure le monde en dominant et dominé. Et cela va se jouer en commençant le processus de colonisation d'abord dans la proximité. Ça sera mon second point de rupture. Donc mon premier point de rupture, c'est d'arrêter d'analyser le capitalisme, puis ensuite le colonialisme, et donc ce serait comme ensemble. Le second point de rupture, c'est de considérer que le capitalisme s'est d'abord exercé dans sa proximité, dans la colonisation des régions périphériques. Et ça a un enjeu énorme sur la question de l'immigration. Autrement dit, les premiers endroits à être colonisés, ça a été la Bretagne et l'Auvergne. L'imposition des rapports capitalistes dans des régions dans lesquelles les rapports communautaires étaient prédominants, dans lesquelles le mode de subsistance était centré sur la grande famille, c'est ce qui va aussi produire les premières immigrations. Dans le livre, vous verrez dans le détail, j'ai fait un énorme travail de recherche historique pour aller retrouver ce qu'on disait des Bretons au moment où ils arrivaient à Paris, à Lille, dans les grandes villes industrielles. Que disait-on d'eux ? Exactement les mêmes choses de ce que l'on dit aujourd'hui de l'immigration postcoloniale. Ces Bretons seraient communautaristes. Et allez, même si vous n'avez pas assez d'argent, parcourez, juste dans ce chapitre-là, vous verrez les citations, des rapports de préfets, des journaux, des discours d'élite qui nous parlent des Bretons comme refusant d'abandonner leur langue, comme étant arriérés, comme ne sachant pas s'adapter à la vie industrielle, comme étant communautaristes, comme étant à surveiller et à réprimer. Même discours sur les Auvergnats. Ça, c'est au niveau des discours. Au niveau de la pratique, dans quel type d'emploi allaient les Bretons et les Auvergnats ? Exactement dans le même type d'emploi surexploité qu'occupe aujourd'hui l'immigration postcoloniale. La seconde erreur d'un certain nombre d'organisations progressistes, c'est de ne pas penser le capitalisme comme un système qui s'est appliqué à la fois ici et à la fois à l'extérieur. Et donc la colonisation n'est pas qu'un phénomène extérieur, elle a commencé par l'unification du territoire national pour imposer les rapports sociaux capitalistes. Et si on pense cela, eh bien, la question de l'immigration prend une place particulière. Elle devient une place centrale dans ceux qui veulent penser ce qu'est le capitalisme. Si on intègre les Bretons et les Auvergnats, parce que bien entendu, ce qui va se passer avec les Italiens, les Polonais, les Portugais après, donc c'est un autre chapitre du livre où je décris ce qu'on disait sur ces Italiens, ces Polonais, etc., exactement les mêmes discours ont été tenus pour ces dimensions-là. Eh bien, si on intègre ces immigrations internes, eh bien, la classe ouvrière est une classe immigrée. Alors, Vous imaginez le chemin qu'on a à parcourir dans ceux qui veulent changer ce monde, qui pensaient l'immigration comme une question annexe, comme une question secondaire. Elle est une question au cœur du capitalisme. Le capitalisme est né en détruisant les paysanneries ici et là-bas, et donc en suscitant l'immigration ici et là-bas, et l'immigration est donc au cœur du capitalisme. Il n'y a pas de capitalisme sans immigration. Pour bien saisir l'importance de cette immigration pour le capitalisme, il faut avoir en tête et revenir à des choses qui ont déjà été dites par un vieux monsieur qui s'appelle Karl Marx, je crois, et dont beaucoup se revendiquent ici, mais on se demande si on a bien lu ce monsieur. Marx nous dit « Il y a trois formes dans l'exploitation. Quand je veux augmenter mes profits, il y a trois modalités. » Il en décrit trois, enfin il en cite trois, et il nous dit « Je vais en analyser deux parce que ce qui m'intéresse, c'est le capitalisme théorique. » Ce n'est pas le capitalisme tel qu'il est en France ou en Angleterre. C'est ce qu'il y a de commun entre tous les capitalismes. Et la troisième, nous dit-il, elle est par contre très répandue, mais je ne l'analyse pas parce que je n'en ai pas besoin comme hypothèse pour le capitalisme théorique. La première forme, nous dit-il, c'est la plus-value absolue. Quand je veux augmenter mes profits, une de mes manières, des manières de faire, c'est d'amener les ouvriers à allonger leur journée de travail. C'est la plus-value absolue. Il la nomme plus-value absolue. Si vous travaillez 8 heures, ce qui revient aux capitalistes est moins important que si vous travaillez 10 heures. Et la partie la plus fragile de la classe ouvrière, on lui impose des horaires qui vont au-delà de la moyenne du reste des travailleurs. Seconde manière, la plus-value relative. Vous travaillez toujours 8 heures, mais vous travaillez avec une intensité plus forte. Je ne reviens pas là-dessus, c'est les deux formes les plus connues qui sont dans toutes les analyses à gauche, on nous parle de ça, etc. Mais Marx nous dit qu'il y en a une troisième, qu'il n'a pas nommée, mais qui dit qu'elle est fréquente, qui lorsqu'on fait travailler la force de travail et qu'on la paye en dessous de ce qu'il lui faut pour se reproduire, c'est la plus-value de surexploitation. C'est-à-dire lorsqu'on utilise la force de travail en sachant qu'on ne lui permet même pas de survivre. On l'amène à se suicider progressivement. Le stress, l'espérance de vie moindre, etc., etc. L'immigration a toujours été la partie de la classe ouvrière qui était dans cette dynamique de surexploitation, dans cette partie de la plus-value de surexploitation. Et le capitalisme en a toujours besoin. Pourquoi ? Il en a toujours besoin parce que le capital court après les profits et passe d'un secteur à l'autre juste pour maximiser ses profits. On le voit bien avec les délocalisations où on peut avoir une entreprise qui fait des profits mais qui va aller ailleurs parce que là-bas, le profit est plus important. Et donc, il faut que la force de travail bouge en même temps que le capital. Quelle est la force de travail qui est dans une telle contrainte qu'elle est contrainte, justement, à bouger d'une ville à l'autre, d'un secteur à l'autre, d'un emploi à l'autre? Eh bien, c'est la partie de la classe ouvrière qui a le moins de protection. C'est l'immigration. L'immigration a toujours servi de variable d'ajustement structurel aux mutations et aux évolutions du capital. L'immigration n'est donc pas un élément secondaire dans le capitalisme. C'est un élément essentiel. Aimé Césaire disait que le capitalisme ne fonctionne qu'en s'étendant. Pour une raison toute simple. Comme la loi du capitalisme, c'est la recherche du profit et la concurrence, le capitalisme qui ne s'étend pas est le capitalisme qui va être bouffé. Et donc ça fonctionne en s'étendant. en s'étendant à l'échelle nationale et en s'étendant à l'échelle internationale. Et donc, on ne peut pas couper immigration, capitalisme et colonialisme. Et pourquoi 1492 ? Eh bien, pour la raison que je disais tout à l'heure, alors, je reviens là-dessus parce qu'une critique m'a été faite en me disant, mais monsieur Bobama, c'est bien gentil tout ça, mais 1492 et les Amériques en général, c'est l'Espagne et le Portugal. Et donc, ça n'explique pas le capitalisme français et anglais. Certes, c'est tout simplement oublier que l'Espagne et le Portugal n'avaient pas les moyens d'organiser les expéditions qu'ils ont faites. Et comment ont-ils pu quand même faire ces expéditions ? En empruntant auprès de toutes les bourgeoisies commerciales européennes, en s'endettant auprès d'eux, et une grande partie des pillages sont ensuite reversés comme remboursement de la dette. Je donne des chiffres dans le livre de ce qui allait de la Banque d'Espagne et de la Banque du Portugal vers la France, vers Paris, vers Londres, etc. Tous les pays capitalistes ont été irrigués par ce pillage. L'esclavage venant ensuite renforcer cette dimension-là. Alors, si on a ce soubassement en tête, on peut passer à la seconde question, qui est la question des fonctions de l'immigration. Contrairement à l'apparence, il n'y a pas un marché du travail dans nos sociétés et il n'y a jamais eu un seul marché du travail. Il y a toujours eu une segmentation du marché du travail. Pourquoi cela ? Parce qu'il y a, dans le capitalisme, toujours une lutte entre, d'un côté, le besoin pour les propriétaires du capitaux de faire bouger la force de travail en durée de travail, c'est-à-dire de la faire bosser plus quand il y a plus de boulot et moins quand il y a moins de boulot, géographiquement, en fonction des mutations du capital, etc. Donc, une lutte où le capital met en insécurité la force de travail, et l'organisation des travailleurs qui vise à s'assurer des garanties de stabilité, etc. Des droits, etc. Et donc, le capitalisme est confronté à un problème. Au plus les travailleurs s'organisent, au plus ils ont des difficultés à adapter la force de travail à la circulation du capital. L'immigration va être, et encore, la clé pour elle, à la fois d'avoir une main-d'œuvre stable, avec qui il n'y a pas trop de conflits, et à la fois, d'un autre côté, d'avoir une main-d'œuvre précaire, que l'on fait circuler, qui est contrainte de circuler. Ce besoin de main-d'œuvre flexible fait de l'immigration cette dimension de variable d'ajustement structurel. Autrement dit, il faut rompre avec l'image d'une classe ouvrière unique et unie. Si la classe ouvrière a les mêmes intérêts, quelles que soient ses composantes en termes d'avenir, dans le présent, elle n'est pas dans les mêmes places et dans les mêmes contraintes en fonction de ce qui la caractérise. Il y a donc une hiérarchie, une hétérogénéité de la classe ouvrière. Et cette hétérogénéité, c'est un des points de faiblesse, parce que, bien entendu, le capital a intérêt à cela. Et donc, tous les discours sur l'unité de la classe ouvrière qui postulent qu'il y a une unité d'essence au démarrage, eh bien, occultent le travail qu'il faut faire pour unifier cette classe ouvrière. S'il y a unité, c'est en termes de perspective. C'est le résultat d'un travail. Mais ça n'est pas l'organisation spontanée lié au capitalisme. L'organisation spontanée au capitalisme, c'est un marché du travail hiérarchisé. Et on pourrait, si vous voulez, faire l'analyse des strates. Hein. En haut, vous allez avoir une classe ouvrière blanche en contrat à durée indéterminée. Puis, vous allez avoir une classe ouvrière blanche en contrat précaire. Puis, vous allez avoir les immigrés qui ont une carte de séjour, donc avec un minimum de stabilité. Et dans le livre, je donne les secteurs où chacune et les quantités, et on voit bien la répartition des forces de travail. Puis vous avez... j'ai oublié une strate. Elle est importante, j'y reviendrai après. Vous avez les descendants des immigrations. C'est-à-dire ces Français, parfois depuis une ou deux générations, mais qui ne sont pas au niveau des postes de travail, au même poste de travail que leurs collègues de même âge. Ensuite, vous avez les immigrés donc stables. Ensuite, vous avez les immigrés qui ont été régularisés, donc les anciens sans-papiers régularisés. Donc, vous savez très bien qu'il y a une condition, une fois qu'on est régularisé, c'est qu'on nous donne un titre d'un an pendant au moins 5 ans, renouvelable tous les ans, en devant présenter des fiches de paye. Conséquence, vous avez des anciens sans-papiers, aujourd'hui régularisés, qui continuent à occuper des postes, parce qu'ils ne peuvent pas se permettre de ne pas avoir de fiches de paye. Donc ils continuent, malgré leur qualification, à occuper des postes qu'ils n'occuperaient pas s'ils avaient plus de marge de manœuvre. Et enfin, vous avez les sans-papiers. Alors, si on prend ça en compte, on s'aperçoit que tout discours sur l'unité de la classe ouvrière qui occulterait cette hiérarchisation créée par le capitalisme, pas par les travailleurs, créée par le capitalisme, sous-estimerait le combat contre les discriminations, sous-estimerait le combat contre le sexisme, parce que le même schéma pourrait se travailler sur la question de l'égalité homme-femme. Et donc, on voit bien en quoi une partie importante des progressistes, tout en étant sincères, en parlant d'unité de la classe ouvrière, s'ils ne prennent pas en compte cette hiérarchisation par le capitalisme, eh bien, passent à côté d'un élément essentiel. Alors, ce que je décris là, ça a joué pour toutes les immigrations. Des Bretons jusqu'aux Soudanais arrivés récemment. Est-ce que ça veut dire que tout est identique? Bien sûr que non. Les invariances ne signifient pas qu'il n'y a pas de mutation. Toutes les immigrations jusqu'à présent, jusqu'à une époque récente, ont fonctionné avec à la fois une assignation à certaines places économiques, à certaines places spatiales, donc certains types d'habitats, etc. Toutes, ça c'est commun à tout le monde. Toutes ont fonctionné avec les mêmes discours idéologiques, et le mot séparatisme n'est pas prononcé pour la première fois là maintenant, hein. Il est prononcé pour la première fois pour les Auvergnats. C'est important de l'avoir en tête. Mais il y a un changement énorme qui est lié à la période actuelle. Et ce changement énorme, c'est quoi? Eh bien, c'est que pour les Italiens, les Polonais, les Portugais, les Auvergnats, les Bretons, leurs enfants ont été considérés et regardés comme des Français. Parfois, la violence xénophobe a été pire qu'avec les immigrés qui viennent d'Afrique du Nord ou d'Afrique subsaharienne. Je rappelle que pour les Italiens, et je touche du bois, que ça n'arrive pas, on n'a pas eu ça ni pour les Maghrébins ni pour les Africains subsahariens. On a eu de la chasse à l'homme. À Aigues-Mortes, ça n'est pas l'État qui chasse, c'est la population qui chasse l'Italien. Et donc parfois, la violence a été pire. Donc ce n'est pas la violence qui fait la distinction. Ce qui fait la distinction, c'est la reproduction transgénérationnelle du stigmate xénophobe. Autrement dit, des Français continuent sur plusieurs générations, à partir d'un marqueur de couleur, d'un marqueur de religion, d'un marqueur de différence, à être traités comme une main-d'œuvre spéciale, surexploitée, discriminée, etc. Et ça, c'est un phénomène nouveau. Nouveau en France. Il n'est pas nouveau ailleurs. Aux États-Unis, ça ne vous rappelle rien, les descendants d'esclaves fonctionnent exactement selon la même logique. En fait, la France se rapproche des États-Unis. Les descendants de l'immigration postcoloniale jouent la fonction que les Noirs aux États-Unis jouent. Depuis X générations, l'esclavage est aboli. Et pourtant, on constate encore des discriminations particulières à qualification égale, juste à partir du critère de couleur. Alors, je sais que quand je dis ça, ça choque parce qu'il y a ce mythe qu'en France, on serait différent des États-Unis. En réalité, nous sommes dans le même modèle qui s'est mis en place.
Même audio ? Une mémoire sonore ?
Jusqu'à présent, j'ai peu parlé du racisme. Il faut bien entendu introduire cette notion de racisme. Quand le mythe véhiculé par le roman national suppose de neutraliser le racisme en le présentant comme une tare de l'être humain. Vous avez tous entendu ce discours-là. Il y a toujours eu des racistes, et on aura toujours. C'est la mauvaise part de l'humanité. On est tous un peu racistes. C'est ce type de discours. Ça n'est pas un hasard s'ils sont diffusés aussi fortement, aussi de manière aussi constante. Ce n'est pas un hasard. Si c'est aussi récurrent, c'est que ça permet d'évacuer une question. Quelle question ? Ça permet d'évacuer la question du moment historique d'apparition du racisme. Parce que ce moment historique, il est indéniablement lié à 1492. Il est indéniablement lié à ce moment particulier où il fallait qu'auprès du peuple français, on lui donne des idéologies qui l'amènent à considérer que c'est pas grave d'aller massacrer des peuples, lui faire accepter les crimes de sa classe dominante. Et le racisme est né comme idéologie de justification. Alors, certains d'entre vous vont dire, mais quand même, M. Bobama, vous exagérez. On a quand même des preuves historiques au niveau... Il y avait quand même des choses avant 1492. Oui, bien entendu, avant 1492, ce n'est pas le paradis. Il y avait ce que l'on appelait, dans les sciences sociales, l'ethnocentrisme. La confusion volontaire entre ethnocentrisme et racisme permet d'évacuer la nouveauté du racisme et sa place historique. L'ethnocentrisme, c'est quoi ? L'ethnocentrisme, c'est la tendance spontanée de tout groupe à préférer ce qu'il connaît à ce qu'il ne connaît pas. Mais ça n'est pas basé sur une théorie de la hiérarchisation des êtres humains. L'ethnocentrisme, c'est le choix de préférence parce que j'ai peur de ce que je ne connais pas. D'ailleurs, dans les conflits et les guerres, eh bien, on considérait que l'ennemi avait des pouvoirs, et dans un certain nombre d'endroits, y compris le fait de consommer l'ennemi, par exemple le cannibalisme, qui, loin d'avoir été une spécificité africaine, a été répandu sur la planète entière, ça n'était pas un cannibalisme pour se nourrir. Hein. C'était pour prendre les forces de l'adversaire. Donc on lui reconnaissait des forces, on lui reconnaissait des qualités. Il a fallu la naissance du capitalisme pour que naisse une théorisation que l'humanité est faite d'espèces différentes et qu'elle est hiérarchisée entre des supérieurs et des inférieurs. Et confondre l'ethnocentrisme et le racisme, c'est ne rien comprendre à la spécificité justement du capitalisme et de ce besoin de créer le racisme. Alors le racisme n'est pas une réalité statique. Le racisme, c'est une réalité qui va s'adapter aux différents âges du capitalisme. La première forme historique du racisme, celle qui apparaît en 1492, celle qui est théorisée à ce moment-là, qui va être reprise après pour l'esclavage, c'est le biologisme. Dans un autre travail, je soulignais que pour le sexisme, la première forme historique, ça a été également le biologisme. On expliquait que le corps des femmes était fait de telle sorte qu'il ne pouvait pas être un corps sensé. Mesdames, vous êtes prisonnières de votre corps, alors que l'homme peut se détacher de son corps et donc faire des choix politiques. C'est la raison, ce que je cite là, c'est pas des aspects secondaires. Hein. C'est ce qui était débattu à l'Assemblée nationale pour justifier le refus du droit de vote des femmes lors de la Révolution française. Eh bien, on va avoir le même raisonnement qui va s'appliquer au moment de l'esclavage, où on va dire Dans le corps des êtres humains, il y a des différences telles qui hiérarchisent l'humanité et qui justifient que certains soient donc mis en esclavage. Cela, ça va durer pendant des siècles. Et pourquoi cela va-t-il muter ? Qu'est-ce qui va amener la transformation de cela ? Ce qui va amener la transformation de cela, c'est les mutations du capitalisme et la résistance des dominés. Ce n'est pas moi qui le dis, c'est un grand auteur qu'il faut relire aujourd'hui, qui est Frantz Fanon, qui décrit quelque chose qui est là aussi assez occulté dans beaucoup d'organisations progressistes. Je sais que certains peuvent être en désaccord avec ce que je vais dire, mais une des manières d'aborder la question du nazisme en Europe, dans beaucoup d'organisations, c'est de le considérer comme étant un moment particulier dans l'histoire de l'humanité. Comme si c'était une parenthèse, une sorte de folie. Et qu'on aurait eu là un moment de barbarie qu'on n'avait pas connu auparavant. C'est avoir un regard eurocentré sur le nazisme. Si on regarde à l'échelle de la planète, si on ne s'arrête pas à l'Europe, tout ce qu'a fait Hitler existait auparavant, mais appliqué à des Noirs et des Arabes. Les camps de concentration existaient avant. Dans le livre, je donne les camps de concentration de l'époque coloniale, qui étaient de vrais camps de concentration. Et où croyez-vous que les nazis ont été à prendre, à voir l'idée de ce type de camp ? La pratique des expériences médicales, elles existaient dans les colonies. Autrement dit, toutes les horreurs du nazisme existaient auparavant, mais comme on était dans le racisme biologique, eh bien, ça n'apparaissait pas comme scandaleux. Ce qu'il y a de nouveau avec le nazisme, nous dit Frantz Fanon et Aimé Césaire avant lui, ce qu'il y a de nouveau, c'est que pour la première fois, la colonisation s'applique de blanc à des blancs. Pour la première fois, l'occupation de territoire et la mise en domination, c'est des blancs qui l'appliquent à d'autres blancs. Et ça, ça va venir casser la crédibilité, la légitimité du racisme biologique. Il n'est plus possible en 1945 de venir dire qu'il y a une hiérarchie des races, puisqu'au sein même de la race blanche, on a appliqué le même discours. Et donc cette fragilisation ne va pas donner naissance à la fin du racisme. Elle va donner naissance à une mutation du visage du racisme. Il va devenir, nous dit Frantz Fanon, un racisme culturaliste. On ne va plus dire c'est les corps humains qui sont hiérarchisés, on va dire non, non, tous les corps sont égaux. Non, non, il faut arrêter les conneries, ça c'est du passé, c'est pas vrai, tous les corps sont égaux. Mais il y a des cultures supérieures et des cultures inférieures. Et le devoir des cultures supérieures, c'est d'aider les cultures inférieures à grandir. Et donc le racisme va muter, on ne va plus parler de biologie, on ne va plus parler de crâne, on ne va plus parler de couleur. On va parler de développement, on va parler d'obstacles au développement, de cultures qui empêchent le développement, etc. Ça, ça correspond à un second âge du capitalisme, qui est lequel ? Qui est l'âge des monopoles. Autant le capitalisme biologique correspondait au premier âge que décrit Marx, hein, qui est le capitalisme de petites entreprises, etc., qui très vite, par la concentration, va déboucher sur des monopoles, et Lénine est celui qui décrit justement ces monopoles, eh bien, avec l'imposition des monopoles à l'échelle mondiale, eh bien, on va voir le colonialisme qui va muter en néocolonialisme à partir de 1945, c'est les débuts de la mue, et on va avoir le racisme qui va muter du racisme biologique au racisme culturaliste. Et nous étions là jusqu'à il y a encore quelques décennies. Nous en étions là encore il y a quelques décennies. En gros, si vous voulez tenter de saisir à quel débat politique ça correspond, tous ceux qui ont pensé l'immigration en termes d'intégration, vous savez, on va les aider à s'intégrer, ils ne sont pas intégrés, leur difficulté c'est parce qu'ils ne sont pas intégrés. Donc on renvoie l'inégalité subie à un défaut de la personne. C'est elle qui n'a pas encore suffisamment évolué. Ça, c'est du racisme culturaliste. Et c'était plein de bons discours. Hein. La bonne gauche nous disait, oui, oui, on va faire des efforts, on va envoyer des éducateurs dans les quartiers, etc. Alors que la question, c'était dans quel type de boulot ils étaient, dans quel type d'assignation à résidence ils étaient, dans quelle politique de logement on était. C'était ça la question. Et on renvoyait aux individus. Et donc, ils n'étaient pas assez intégrés. Nous en étions là jusque, on va dire, les années 90. Les années 90, c'est une mutation globale du capitalisme. Avec la disparition de l'URSS, c'est l'ensemble des équilibres mondiaux issus de la Seconde Guerre mondiale qui éclate. Et indépendamment de ce qu'on pense de l'URSS, ça jouait une fonction. L'URSS, le monde tel qu'il était structuré, ne pouvait fonctionner que d'une certaine façon parce qu'il y avait cette dualité. La disparition de cela, et les guerres que nous vivons aujourd'hui ne sont pas un hasard, la disparition de cela va être un véritable séisme dont on n'a pas encore mesuré l'ensemble des conséquences. Et ça va se traduire par quoi ? Ça va se traduire par ce qui est appelé couramment la mondialisation. Alors, soulignons d'emblée la connerie consistant à considérer que la mondialisation date de cette période-là. J'ai expliqué tout à l'heure que le capitalisme est né en s'étendant. Nous sommes dans une nouvelle phase de mondialisation. La mondialisation, elle est complètement liée avec le capitalisme. Mais nous sommes dans une nouvelle phase. Cette nouvelle phase, on nous l'a présentée médiatiquement comme étant le résultat de l'évolution des sciences et des techniques, des réseaux sociaux. Vous savez, la révolution de la communication aurait amené un développement des échanges, le monde serait devenu un village, etc. C'est le roman qu'on nous décrit. C'est pas ça, la mondialisation. Hein. La mondialisation, c'est une série de décisions que je cite chronologiquement dans l'ouvrage, une série de décisions du FMI, de la Banque mondiale, du G7, du G20, de l'Union européenne, consistant à déréguler complètement le marché mondial. Et on nous présente ça comme le résultat des sciences et des techniques et des sciences de la communication. Il s'agit d'enlever toute entrave au capital. Pour cela, inévitablement, on doit pouvoir faire pression sur l'ensemble des pays qui ont hérité d'éléments de régulation. Par exemple, pour les anciens pays colonisés, mais là aussi, est-ce que dans notre culture, on a compris qu'il va falloir qu'on s'intéresse à l'ensemble du monde et à savoir comment fonctionnent les travailleurs quand ils sont en Afrique ou en Asie ? Bien, pour un certain nombre de ces pays, un des héritages des luttes anticoloniales, c'était un certain nombre d'éléments de protection. Par exemple, même les gouvernements les plus réactionnaires étaient contraints, par peur de la révolte sociale, de financer les produits de première nécessité. Autrement dit, quand l'huile avait un prix de revient de 2 euros, l'État mettait 1 euro pour que le citoyen ne le paye qu'un euro. Que va faire la mondialisation ? Elle va venir supprimer tous ces éléments de régulation. C'est les plans d'ajustement structurel du FMI, du Fonds monétaire international. Ces plans, ils sont construits tous avec le même schéma. Ils imposent la privatisation des entreprises et du secteur public. Ils imposent la fin des droits de douane qui étaient des droits qui protégeaient l'agriculture locale. Ils imposent la liberté du capital, etc. etc. Et le droit de rapatriement des profits. Cette dimension-là va venir complètement transformer les pays dominés. Et ça va provoquer une série de chaos. L'exemple du Mali est tout simplement cela. Vous savez que pour comprendre le djihadisme au Mali, il y a bien entendu des dimensions idéologiques, mais il y a aussi que dans le nord du Mali, il n'y a plus de police, il n'y a plus d'école, il n'y a plus de route. On a tellement affaibli les États des pays du Sud qu'ils ne peuvent même pas faire le minimum que dans un pays capitaliste en fait. Et il y a des régions entièrement coupées du reste du pays. Et c'est là que fleurissent ce type de situation. Alors ce changement-là, ça signifie quoi au niveau économique ? Ben, le changement, on pourrait le résumer comme suit. Il y a deux grandes manières d'accéder à la force de travail surexploitée. Vous savez, cette force de travail qui n'est pas encore dans les syndicats, cette force de travail qui vient d'arriver et qui donc est contrainte parce qu'elle n'a pas de papier ou parce qu'elle vient d'arriver d'accepter tout et n'importe quoi, il y a deux grandes manières d'accéder à cette force de travail. La première manière, elle a fonctionné jusqu'aux années 90. C'était de l'importer. Et je donne des chiffres. Hein. Le mythe des sans-papiers, c'est du bluff. Hein. Il y a des périodes où il y avait 95% des immigrés qui étaient entrés en France sans papier et qui étaient régularisés sur simple présentation d'une fiche de paye. Donc, c'était... Et l'État disait lui-même qu'on avait besoin de ces sans-papiers, on les appelait les clandestins à l'époque, on a besoin des clandestins parce que les ouvriers français sont trop attachés à leurs droits. Ça vient... Ils sont capables de les défendre. Donc, ça vient bien expliquer cette hiérarchisation de la classe ouvrière. Donc ça, c'était la première manière. La deuxième manière, et c'est celle qui domine aujourd'hui, c'est l'exportation des entreprises dans les bassins où existe cette force de travail surexploitée. C'est la délocalisation. Et cette délocalisation, elle va provoquer une mutation du modèle migratoire ici. Très rapidement, pour que les multinationales qui s'implantent en Afrique puissent disposer de cette main-d'œuvre surexploitable, il faut qu'elles ne viennent pas. Donc on ferme les frontières. D'où le discours sur la fermeture des frontières. Il n'y a aucun péril migratoire. Là aussi, je donne des chiffres. C'est du bluff. Il n'y a pas une arrivée massive de millions d'immigrés. C'est pas vrai. Pour une raison toute simple. C'est que n'immigre pas qui veut, immigre qui peut. Et ça n'est pas la même chose. Pouvoir passer au travers des mailles, etc., c'est le fait d'une extrême minorité. Pour la très grande majorité, ils immigrent où ? Quand il y a la misère chez eux ou la guerre, ils émigrent dans le pays voisin. Près de 80% de l'immigration liée à la surexploitation économique, liée aux guerres, etc., est supportée par des pays pauvres. Ce sont des pays pauvres qui accueillent les réfugiés et les immigrés d'autres pays pauvres. Donc, la fermeture des frontières permet d'accéder à cette force de travail sur place. Mais on est confronté à un problème. Certaines entreprises ne peuvent pas délocaliser. Comment délocaliser une aide ménagère ? L'aide ménagère, elle travaille là où il y a des besoins, là où il y a les personnes âgées. Et donc, on ne va pas délocaliser les aides ménagères. Les nurses, ceux qui servent dans les restaurants, dans les bars, etc. Et donc, toute une partie du capital français, du capital européen, du capital mondial, a besoin de cette force de travail surexploitée, a même calculé ses taux de profit à partir de la disponibilité possible de cette main-d'œuvre. Il faut donc que l'État organise l'existence d'un volant permanent de son papier. Ceux qui arrivent quand même à passer les frontières, eh bien, on va changer les lois pour qu'ils ne puissent pas se régulariser et pour qu'ils puissent être contraints de travailler plusieurs années, la moyenne c'est 10 ans, plusieurs années, dans un statut de non-droit complet. Et ça n'est pas quelque chose dans lequel l'État est dépassé. C'est un choix stratégique pour des secteurs qui ont construit leur viabilité économique à partir de l'existence d'une force de travail surexploitée. Le racisme va s'adapter à cela. On en était au racisme culturaliste. Avec la mondialisation, il y a ce que j'ai proposé de nommer un racisme civilisationniste. Pourquoi cela ? Parce qu'il découle de la théorie du choc des civilisations de Samuel Huntington, qui nous propose d'analyser les conflits dans le monde et les crises dans le monde, non plus comme des conflits économiques et des conflits d'intérêts entre classes sociales ou entre nations, mais comme étant le choc inévitable de civilisations antagonistes. Et du coup, va découler la troisième forme du racisme. Ça n'est pas un hasard si le racisme anti-maghrébin est devenu islamophobie. Chinton parle dans les civilisations ennemies de la civilisation arabo-islamique. Le racisme va donc se centrer sur la dimension religieuse. Quand on voit les débats que la question de la dénonciation de l'islamophobie a provoqué à gauche et à l'extrême gauche, on se dit qu'on a bien été manipulé par l'idéologie dominante et on n'a pas vu cette évolution du capitalisme et la place que ça avait là-dedans. La négrophobie, la même chose. Le racisme prend plus des formes nationales. Il prend des formes qui couvrent des aires géographiques entières correspondant à cette théorie du choc des civilisations. Je terminerai en soulignant que c'est tout cela et la sous-estimation de cela qui a amené notre porosité aux idéologies dominantes. Quand je dis « notre », c'est, on va dire, le monde militant en général et la société en général. Gramsci soulignait déjà que jamais les classes dominantes ne pouvaient dominer uniquement par la force, qu'elles avaient besoin pour dominer de nous imposer des grilles de lecture qui nous amenaient à voir la réalité comme elles veulent qu'on la voie. Eh bien, cette dimension, cette évolution-là et l'idéologie qui l'accompagne expliquent ce que nous vivons aujourd'hui. Pour accompagner la fermeture des frontières, pour accompagner la banalisation de sans-papiers surexploités qui ne provoquent même plus d'émotions. On les croise et ça ne provoque même plus d'émotions alors qu'ils sont dans une surexploitation proche de quasiment d'un esclavage en un peu moins pire. Et la troisième dimension, le pillage des cerveaux également. Vous avez entendu sur les Ukrainiens, certains se disant « mais ils sont diplômés, ça va, c'est chouette, on a des immigrés diplômés qu'on va pouvoir surexploiter ». Eh bien, pour accompagner cela, il faut de nouvelles vagues idéologiques. Et ces nouvelles vagues idéologiques, séparatisme, grand remplacement, laïcité en danger, négation de l'islamophobie et de la négrophobie. On voit bien en quoi nous avons affaire à un système dans lequel le fonctionnement économique est en lien avec les idéologies et qu'on ne peut pas les séparer, mais dans lequel la réalité d'une nation est en lien avec la réalité mondiale. Si on ne comprend pas cela, eh bien nous continuerons à avoir des discours qui peuvent avoir une prétention révolutionnaire, mais qui ne comprendront pas l'importance de certaines questions. Il n'y aura pas de grande transformation dans ce pays si nous ne sommes pas capables d'unifier la classe ouvrière. Et unifier la classe ouvrière, ça veut dire prendre en compte sa partie racisée que j'ai évaluée, donc vous verrez les calculs dans le livre, à 30% des classes populaires de France. Il n'y a pas de révolution possible, pas de transformation structurelle avec une classe ouvrière divisée entre 70 et 30%. Marx disait déjà à propos de l'Angleterre que la faiblesse congénitale du mouvement ouvrier anglais, c'était la division de la classe ouvrière entre Anglais et Irlandais, et les Irlandais faisaient pourtant moins de 30% de la classe ouvrière. Pourquoi cela ? Parce que l'immigration est bien entendu dans les secteurs stratégiques, ce qu'il faut bloquer pour pouvoir transformer une réalité, pour créer du rapport de force. Et quand on voit comment il n'y a pas eu prise en charge du combat contre l'islamophobie, ou que ça a été considéré comme une question secondaire, qu'il n'y a pas eu prise en charge du combat contre les violences policières, et il a fallu que ça s'élargisse aux mouvements sociaux généraux pour qu'on commence à s'en préoccuper, on voit bien en quoi on a, on va dire, au moins deux décennies de retard sur la réalité, et c'est ça qu'il faut transformer. Mettons-nous à la hauteur de la réalité. Merci.
Même audio, une mémoire sonore.